Musique, que me veux-tu ? La chronique de Gilles Cantagrel, correspondant de l'Académie des Beaux-Arts.
Le Messie, l'œuvre la plus célèbre de Handel, n'est pas pour autant bien connue du grand public. On en a retenu le fameux Alléluia, mais sa genèse, sa création, sa diffusion, sa célébrité tissent une très belle histoire, bien peu ordinaire, et qui jette une lumière fascinante sur la personnalité du musicien. Tout le monde le sait, Handel était saxon, il a fait ses débuts à Hambourg, ensuite il se rend en Italie et il finit par se fixer à Londres en 1710, à 25 ans. Et là, très rapidement, ce conquérant né va se faire admirer de toute la noblesse, auprès du duc de Chandos et très tôt de la famille royale. Il est vrai que le roi Georges Ier, ancien électeur de Hanovre, est un compatriote allemand. Au palais Saint-James, Handel enseigne la musique aux jeunes princesses, les filles de la très aimée et très vénérée reine Caroline, l'épouse du futur Georges II, elle-même allemande du Brandebourg, et qui va devenir la fidèle protectrice du musicien. Sitôt établi à Londres, les succès se suivent pour Handel. Il compose des hymnes, de la musique de fête, des sonates, des concertos, des oratorios, des opéras. C'est que, depuis la mort de Purcell, 15 ans plus tôt, aucun compositeur n'avait repris le flambeau de l'opéra et surtout de l'oratorio. En 1719, il a 34 ans, il prend la direction de l'Académie royale de musique, c'est-à-dire de l'opéra, et c'est là qu'il va tenter d'acclimater à Londres l'opéra italien et en langue italienne, tel qu'il l'avait admiré et pratiqué à Rome, à Naples, à Florence et à Venise. C'est un entrepreneur privé, ça n'est pas un opéra subventionné, bien sûr. Et alors il fait venir, et il paie à prix d'or, les plus célèbres chanteurs de l'époque. Par exemple, le castrat Senesino, les plus célèbres prime donne, la Cuzzoni, la Bordoni, qui d'ailleurs, entre nous, non seulement se font payer très cher, mais se jalousent terriblement et s'arrachent les cheveux en scène devant le public. Alors, on ne parle que de lui dans la presse. Il est l'un des hommes les plus en vue de la plus grande ville du monde, ne l'oublions pas, 1 million d'habitants à l'époque. Mais la greffe de l'opéra italien ne va jamais prendre à Londres. Le public finit par se lasser, les abonnés désertent. et après une multiple et douloureuse péripétie, il se trouve au bord de la faillite et au comble du désespoir. Et là, notre Händel va traverser une crise terrible. Il a environ 50 ans et c'est une crise peut-être de la cinquantaine, une lassitude organique peut-être aussi, telle qu'en ont connu ses deux grands contemporains, les deux autres génies allemands, Telemann et Jean-Sébastien Bach, au même âge. Alors, chez Händel, la crise va durer 1 an et demi. Chez Bach, elle va durer 5 ans. Chez Telemann, elle durera 15 ans. Mais ce qui est très extraordinaire, c'est que ces trois musiciens vont sortir de cette crise en devenant tout d'un coup des créateurs nouveaux. Ils vont sortir grandis par cette épreuve et avec une vision du monde et une vision de leur art nouvelle et amplifiée. Donc cette crise se traduit par une paralysie du bras notamment. Il retourne en Allemagne et au fond, il va se soigner à Aix-la-Chapelle, mais il va surtout aller se ressourcer dans son milieu germanique luthérien. Et il revient guéri à Londres. Mais bientôt, et malgré ses efforts, il se voit contraint de renoncer à l'opéra. Alors à Londres, il compose à ce moment un nouvel oratorio, un oratorio en anglais, dans la tradition de Purcell, et uniquement sur des textes bibliques. Principalement l'Ancien Testament d'ailleurs, et c'est le Messie. La composition, c'est très curieux, ne leur a pris que 25 jours d'un travail d'une prodigieuse intensité, comme en état second. Il le dit lui-même, il arrive vers son vieux valet de chambre, et il arrive en larmes parce qu'il vient de terminer un cœur qu'il a lui-même bouleversé. Et là-dessus lui parvient l'invitation de se rendre en Irlande, à Dublin. Alors évidemment, les choses ne marchent pas bien à Londres. Il accepte l'invitation et c'est là qu'il va faire entendre pour la première fois son Messie. En 1742, dans une salle de théâtre, dans un gala au profit d'œuvres charitables. Il ne s'agit pas du tout d'une œuvre religieuse écrite et jouée à l'Église. Elle est religieuse d'inspiration, de sujet, ô combien, puisque c'est une évocation de la vie du Christ et la mission du Christ, mais on la joue dans un théâtre. Ça a été d'ailleurs ressenti d'une façon scandaleuse à l'époque. Et c'est au profit d'œuvres charitables. Et le Messie est joué, rejoué à Dublin, dans un enthousiasme indescriptible. Pour commencer l'œuvre, après la sinfonia d'introduction, il y a une intonation du prophète Isaïe que Händel confie au ténor « Comfort ye, my people !»« Consolez, consolez mon peuple, dira votre Dieu, la voix de celui qui crie au désert est « Préparez le chemin de l'Éternel !» Every mountain and hill. Après ses grands succès de Dublin, Handel retourne à Londres et naturellement il présente son Messie à Covent Garden, à nouveau, dans une salle d'opéra et pas dans une église. Et sans succès cette fois, ce qui est curieux, jusqu'au jour où le roi George II vient l'écouter et se montre enchanté. Enchanté à tel point qu'il se lève au moment de l'Alléluia. Et dès lors, le Messie va devenir une œuvre fétiche pour les Anglais, jusqu'à nos jours. Il n'a jamais connu la moindre éclipse. Alors ce qui m'intéresse, et ce qui m'interpelle, dirait-on, en langage d'aujourd'hui, dans cette œuvre, d'abord parce que c'est un chef-d'œuvre, naturellement, nous n'insistons pas, mais d'abord parce que c'est une méditation spirituelle. Ça n'est pas une histoire qu'on nous raconte, il n'y a pas une narration, c'est une méditation profonde de l'homme de foi, un chrétien profondément convaincu. Il est luthérien, il était à Rome, il a refusé de se convertir au catholicisme, il est en Angleterre, il refuse de se convertir à l'anglicanisme, il reste luthérien, c'est-à-dire chrétien, chrétien des premiers siècles, chrétien lecteur de l'Ancien et du Nouveau Testament. Par exemple, dans le début de la troisième partie, puisqu'il y a trois parties à cette œuvre, commence par ce magnifique texte du livre de Job, « Je sais que mon Rédempteur vit ». Au moment où Job a été abandonné de tous, il a perdu sa fortune, il a perdu non seulement toute sa famille, tous ses amis, son argent, ses biens, et il est là, nu sur un tas de fumier. Et il invective le ciel pour essayer de comprendre ce qui lui arrive. Mais je sais que mon Rédempteur vit, il garde la foi. Et ça, Handel le fait sien, et jusqu'à la fin de ses jours. Alors je voudrais ajouter autre chose, qui là m'émeut profondément aussi. De son vivant, Handel a été le seul à diriger le Messie. On dirait aujourd'hui en exclusivité. Il avait refusé qu'on imprime la musique et pourtant il était imprimé, piraté, ses œuvres se vendaient dans l'Europe entière. Il a refusé qu'on l'imprime. Il avait gardé par-devers lui, non seulement sa partition, mais les parties que l'on met sur les pupitres pour tous les exécutants, ce qu'on appelle le matériel en termes de musique. Et il les conservait par-devers lui, et cela lui a permis de jouer, lui, de diriger près de 70 fois le Messie, avec chaque fois des solistes, des chœurs, des musiciens qu'il engageait à la condition expresse qu'ils viennent gratuitement. Lui-même faisait don de toute la recette au profit de l'Hospice des Enfants Trouvés, le Foundling Hospital de Londres, lui qui n'a pas eu d'enfant, qui est resté célibataire. Et il est d'ailleurs mort extrêmement riche, je le dirai peut-être tout à l'heure. Tous les bénéfices de ces 70 auditions du Messie, il les a intégralement versés à l'Hospice des Enfants Trouvés. Et chaque fois, c'était des effectifs de plus en plus importants. J'en redirai un mot tout à l'heure. Alors, écoutons là le premier chœur de la première partie. C'est un chœur triomphal, toujours emprunté à Isaïe. « Alors la gloire de l'Éternel se manifestera, et toute chair la verra en même temps, car la bouche de l'Éternel a parlé. »
Thank you.
Ce Messie, donc, je le disais, est une évocation de la destinée du Christ, une méditation et pas du tout une narration, comme ce serait le cas dans un oratorio de la Passion, naturellement. Et le poète Jennens, qui a réalisé le montage de textes empruntés aux Écritures, l'a organisé en trois parties. Successivement, l'attente et la venue du Messie, puis au centre, les souffrances et la mort du Christ, qui se termine par l'Alléluia de la résurrection. Et la troisième partie, la résurrection, l'après la résurrection, donc l'accomplissement de la rédemption. Donc, dans la première partie, il évoque la nativité par ce qu'on appelle une pifa, qui est une symphonia, petite symphonia très douce, pastorale, extrêmement tendre, selon la tradition musicale. Et puisqu'il s'agit d'une évocation et non pas d'un récit, la deuxième partie, qui est consacrée aux souffrances et à la mort du Christ, ne raconte pas les événements comme les passions de Bach, par exemple, ou de tant d'autres compositeurs. C'est une suite de méditations, je le redis, à commencer par celle bouleversée de l'homme, le chrétien, devant le Christ aux outrages, l'homme de douleur, le Christ flagellé, bafoué, à qui on crache au visage. Alors cette méditation, il l'a confiée à la voix d'alto, ce qui est normal, puisque dans toute la rhétorique baroque, la symbolique musicale du baroque, la voix d'alto est celle de l'âme dans la souffrance. « He was despised ». C'est un texte à nouveau issu du prophète Isaïe. « Et le dernier des hommes, un homme de douleur, et qui sait ce qu'est que la langueur ?» Il a exposé mon dos à ceux qui se frappaient et ses jours, à ceux qui lui arrachaient la barbe. Il n'a point caché mon visage pour éviter l'ignominie et les crachats. À la fin, la deuxième des trois parties, je le disais tout à l'heure, c'est le grand chant de joie parce que le Christ est ressuscité et vit désormais dans son éternité, dans le non-temps. Mais il ne s'agit pas là de la joie immédiate face à l'événement du tombeau vide, les saintes femmes qui arrivent devant le tombeau, la pierre a été roulée, il y a une lueur éclatante. Et donc ce serait une joie un petit peu au premier degré qui manifeste tout de même la victoire de la vie sur la mort. C'était là une joie métaphysique sur la libération de l'espèce humaine. Et alors, je rappelais que lorsque le roi George II est venu à Londres écouter le Messie, ce qui a assuré son succès immédiatement, il s'est levé au moment de l'Alléluia. Quand le roi est debout, tout le monde se lève. Et depuis, beaucoup d'entre vous le savent certainement, c'est devenu une tradition, non seulement dans les pays anglo-saxons, mais même un peu partout sur la planète, de se lever à la fin de la deuxième partie, comme pendant un hymne national. On se lève pendant l'Alléluia du Messie. Alors c'est une très belle histoire, elle est véridique, le roi s'est effectivement levé, mais on ne sait pas si c'était dans un mouvement d'enthousiasme ou simplement puisqu'il souffrait de la goutte pour dégourdir ses jambes. Le Messie a donc assuré une célébrité extraordinaire en Angleterre et au-delà, universelle même, à George Frederick Handel. Il est devenu très célèbre, très riche en même temps, mais il est mort solitaire. On ne lui connaît aucune aventure, aucun lien affectif d'un quelque ordre que ce soit. Et pourtant, il était extrêmement célèbre. Il a été brocardé, caricaturé, on racontait des tas d'anecdotes sur lui. Vous pensez donc que si la presse People s'était emparée de ce personnage qui était un véritable ogre, un géant, qui était capable d'écrire un opéra en 15 jours, eh bien, on ne lui connaît aucune aventure personnelle. Il vivait tout seul, reclus dans sa maison, et il allait donc mourir seul avec son vieux valet de chambre qui le servait jusqu'à la fin de ses jours, aveugle. C'était la rançon, hélas, de beaucoup de musiciens qui travaillaient et qui copiaient de la musique, non seulement le jour, mais à la nuit tombée, à la lueur de misérables chandelles et qui s'usaient les yeux. Il a été opéré par le même chirurgien anglais, d'ailleurs, que Jean-Sébastien Bach et qui les a massacrés tous les deux. Ils sont tous les deux devenus aveugles des suites des opérations de ce fameux chevalier Taylor. Il était fort pieux, je disais qu'il était resté un chrétien convaincu. Il faisait ses dévotions dans une église voisine à Saint Mary le Bow et il frappait les fidèles qui venaient là à une heure ou une autre dans l'église par ses gestes extraordinaires de piété. Il se couchait au sol, il s'agenouillait, il se frappait la poitrine. C'était donc vraiment pour lui-même. C'était une foi extraordinairement enracinée en lui depuis toujours. Il meurt aveugle, mais pourtant, il a au-dessus de son pauvre salon, avec un fauteuil crevé et une table bancale, nous raconte l'inventaire de ses biens, deux tableaux de Rembrandt, tout simplement. Et il demeure anglais jusqu'à la fin. Il était allemand. Il est resté fidèle à sa foi luthérienne en milieu anglican et devenu à ce point anglais qu'il a été inhumé en héros national dans l'abbaye de Westminster avec un grand monument funéraire qui existe toujours, qui orne son tombeau, dû au sculpteur Roubilliac. Alors on sait qu'à l'origine, le Messie était exécuté avec un effectif relativement important pour l'époque. On a même la liste exacte des musiciens à la création. 14 violons, 6 altos, 3 violoncelles, 2 contrebasses, 4 hautbois et 4 bassons, 2 trompettes, 2 cors et un corps de 32 chanteurs en plus des solistes. Ce qui fait au total plus de 70 musiciens. Alors quand je vois qu'aujourd'hui, certains courants modernes, post-baroque souhaite qu'il y ait un chanteur par partie et un musicien par partie, je trouve que le résultat est un peu pauvre par rapport à ce que lui-même, Handel, a connu et voulu. Plus de 70 musiciens à la création du Messie. Mais dans un mouvement, dans un élan d'enthousiasme, les effectifs n'ont cessé de croître. Donc, 25 ans après la mort du musicien, on organise à Londres un grand festival de ses œuvres. Et le Messie, naturellement, y tient la place d'honneur. Et sans doute, dans un grand élan d'enthousiasme, de ferveur, d'admiration pour son œuvre, cette fois-ci, ce n'est pas 70 musiciens, c'est 525 artistes, musiciens et chanteurs qui interprète le Messie, et cela en 1784, donc 25 ans seulement après sa disparition. On est encore en plein 18e siècle. Pour le centenaire de la mort du musicien, cette fois en 1859, on a réuni au Crystal Palace de Londres 3200 musiciens pour exécuter le Messie. Aucun musicien n'a jamais connu pareille postérité, naturellement. Je pense que ça devait être de la bouillie pour les chats, pour parler cru, parce que c'est une œuvre qui demande une articulation, des mouvements rapides, une bonne articulation, une intelligence du texte. Je ne vois pas, surtout dans une acoustique de hall de gare comme celle du défunt Crystal Palace, je ne vois pas comment on pouvait vraiment percevoir. C'est en tout cas le signe d'une ferveur, d'un enthousiasme et d'une gloire posthume que n'a jamais connu aucun autre musicien. Shall be changed. Un dernier mot, si vous voulez bien. La petite maison que Handel a habitée pendant la plus grande partie de sa vie à Londres, dans Mayfair, au 25 Brook Street, a failli être rasée il y a une trentaine d'années. Une pétition internationale, auquel tant de mélomanes, amateurs ou professionnels, ont participé il y a une trentaine d'années, l'a donc sauvée. Il y a peut-être une autre raison que j'ai découverte récemment, c'est que la maison voisine a été habitée pendant un an et demi par Jimi Hendrix. Alors on a peut-être hésité à démolir l'une et pas l'autre, c'est peut-être la raison. Toujours est-il que cette maison est devenue, en 2001, un musée Handel qu'il faut vraiment aller visiter.